Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler de Charlotte, du Kansas et de l'actualité. Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy, salut Lilian et bonjour à tout le monde.
Et Lilian est là, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour Aloïs et bonjour à tous.
Alors messieurs, on va commencer par la NASCAR, je parle tout seul d'IndyCar puisque Dixit Lilian, on n'en a rien à foutre. Oliver Askew, il est remercié par l'écurie Arrow McLaren Racing SP à l'issue de la saison. Donc voilà, c'était la grosse actu IndyCar du début de semaine. Il avait raté les deux courses routières d'Indianapolis du début du mois suite à sa commotion cérébrale. Et du
par Helio Castroneves.
Pardon ?
Remplacé par Helio Castroneves.
Ah, finalement, t'en as plus rien à foutre.
Helio Castroneves, non.
Oliver Askew, si. Ok. D'accord. Oui, effectivement, c'est Lucas Neves qui l'avait remplacé pour ces deux courses-là. L'écurie n'a pas communiqué sur 2021 le nom de cette pilote. Ça viendra en temps voulu. Et Oliver Askew, bah, il n'a plus qu'à chercher un volant pour la saison prochaine s'il veut continuer en IndyCar. Voilà messieurs pour la page IndyCar, on attaque tout de suite la NASCAR avec Charlotte sous la pluie et éliminatoire. C'était la troisième course du deuxième tour des playoffs en Cup messieurs et on a eu quatre pilotes qui ont été éliminés dont un certain Kyle Busch qui a pourtant tout tenté Lilian mais ça n'a pas suffi. Quand la poisse est là, Kyle Busch ne triomphe pas.
Ah oui, bah, de toute manière, ça reste la saison 2020 et bon, pressentir, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Les quatre pilotes éliminés avant le drapeau vert ont été les quatre pilotes éliminés à l'issue de la course. Il pouvait y avoir un doute sur Kyle Busch, subsister un doute durant la course pour Clint Bowyer, qui a été quand même très en verve.
Oui, un temps.
Oui, voilà, il avait clairement une voiture pour aller jouer la gagne. Peut-être la meilleure voiture après celle de Chase Elliott. On ne saura pas. Finalement, suite à un contact, il aura eu des soucis de direction assistée.
Ah bah, il a cassé la direction assistée.
Oui, et bon, il...
Et il termine quand même dixième.
Je sais plus ce qu'il a eu d'autre, mais bon, il s'est retrouvé loin dans le peloton. Il a réussi voilà, à sauver un top 10. Et il en est sorti de la voiture complètement très fatigué.
Épuisé.
Il a dû aller. Oui, voilà, épuisé. Il a dû faire un petit tour par le medical center du circuit.
Oui.
Mais bon, voilà. Malheureusement pour Bowyer, ça s'arrête là. Puis bah, pour lui, ne reste plus qu'à terminer tranquillement les quatre courses restantes pour mettre un point final à sa carrière de pilote en Cup Series.
En tout cas, il est tombé avec les honneurs. Rien à dire.
C'est vrai.
C'est comme Kyle Busch, je pense qu'on peut les mettre dans le même sac, mais Clint Bowyer a quand même réalisé une super course. D'ailleurs, c'était le seul avec Chase Elliott à avoir réussi les deux top 5 sur les deux premières courses au Roval, en 2019 et en 2018. Donc, c'est pas totalement surprenant de le retrouver à cette position-là, mais en sachant qu'il était face à une élimination et que c'était sa dernière chance pour l'emporter. Et comme Lilian vient de le souligner, il a annoncé plus tôt dans la semaine son départ à la retraite. Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même un super clin d'œil. Ça prouve que quand même, Clint Bowyer, eh bien, il conduit également avec les tripes. Et c'est quelque chose qui est beau à voir.
Bah là, oui, clairement, bon. Sur cette course, il a tout donné. De toute façon, il n'avait plus que ça. Il n'avait rien à perdre. Bon. Malheureusement,
et encore une fois, un pilote qui prend sa retraite et qui ne va pas en finale pour sa dernière course, c'est quand même quelque chose de récurrent ces dernières années. On a eu l'exception Jeff Gordon en 2015. On a eu,
Carl
pareil,
Edwards?
ouais, mais Carl Edwards,
Oui, avec une
c'est
astérisque.
une dans le sens où il a fait la finale et après il a dit je me casse.
Oui.
C'est l'anomalie, elle est dans ce sens-là.
C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire.
C'est ça parce que tous les autres se sont fait éliminer avant le dernier tour des playoffs ces dernières années, Dale Earnhardt Jr., Jimmy Johnson,
Tony
Tony
Stewart.
Stewart, pour ne citer que. Donc voilà, au record.
Johnson, c'est même encore pire parce qu'il ne s'est pas qualifié du tout.
Oui, voilà, mais je voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Je
Allez, passons alors,
un
passons.
salaud et que tu le ferais. Donc.
Mais en tout cas, pour rester sur ces éliminés, je souhaite tout de même souligner que mon plan pour Kyle Busch énoncé la semaine dernière était quand même plutôt dans de bonnes bases jusque dans les derniers tours.
Ouais, non. Non. Non.
Ah bah il a tenté d'aller chercher la victoire.
Il a tenté, oui.
Il y a eu deux trois soucis dans ses concurrents directs, notamment bah, tu l'as souligné liant Clint Bowyer. Qui d'autre? J'essaie de regarder.
Ah, Chase Elliott a eu des soucis aussi, hein, puisqu'il a dû
Oui,
repasser par
oui,
les stands bah, quand la course reprenait après un drapeau jaune, suite à des écrous mal serrés à l'avant gauche. Enfin,
Da ouais.
mais
D'ailleurs, assez scandaleux.
pardon?
Assez scandaleux parce que je pense pas qu'il y a trois écrous qui ont été serrés sur cette roue avant gauche.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ouais, mais le changeur de pneu, ouais, c'est à revoir.
Ouais, c'est beau quand même de se mettre des handicaps du côté de Chase Elliott sur le Roval et tout ça pour dire, vous inquiétez pas, je suis quand même le plus fort et je vais vous poutrer, quoi.
Mais oui, c'est vrai que ça fait quand même 2 ans. Enfin, on va en parler tout de suite de Chase Elliott. C'est l'an dernier, il se la met tout seul et il tire tout droit dans le mur de pneus sur un restart. Là, c'est ses mécaniciens qui ont décidé de lui donner un petit coup de main. Et puis, gros doigt d'honneur à tout le monde, et puis je vous massacre, quoi. Ça fait 2 ans que c'est ça, et ça fait 4 victoires de suite sur cette piste routière, et il égale un certain Jeff Gordon, quoi, au niveau de la stat.
Ah, les gars, le Gordon a fait 6 hein, d'un coup.
Mais sur l'Euroval, enfin,
C'est son jardin.
non, mais c'est tu le regardes, c'est facile, quoi. Il n'a pas besoin de pousser, voilà. Il passe quasiment où il veut, quand il veut. Et après, oui, quand tu dis Alois Kyle Busch avait une chance jusque dans les derniers tours, c'est parce que Chase Elliott était rentré, remettre du carburant. Je ne sais plus s'il avait repris des gommes fraîches à ce moment-là.
Il remet des gommes aussi, mais
Voilà, il avait déjà la meilleure voiture à armes égales, alors en plus avec des pneus frais, Kyle Busch, il n'en aurait fait qu'une bouchée, malheureusement.
ça m'a la remontée de Chase Elliott m'a quand même un petit peu fait penser à la remontée, accrochez-vous, de Flash McQueen dans Cars. Il se balade au milieu du peloton en mode je suis le boss, vous êtes personne, je vous enfume. J'ai trouvé la comparaison entre guillemets assez marrante parce que la facilité de Chase Elliott
Ah ouais, non mais.
dans le trafic sur l'Euroval, bah franchement, chapeau.
Ah, puis la voiture impeccable, ouais, voilà, il a sans toucher personne, facile, franchement facile. Je sais pas ce qu'il va nous trouver en 2021, histoire de pour se mettre une balle dans le pied pour voilà, se relever un petit défi perso, tu vois.
Bah surtout qu'il y en a 6 hein, en 2021, du coup.
Non, mais c'est justement, c'est marrant d'en parler, mais c'est vrai que c'est. On doit pas être les premiers à y penser, mais ses concurrents, ça doit quand même les inquiéter un petit peu, quoi. Parce que quand on
Ah,
voit
surtout
comme il est
qu'il
facile.
n'y en a qu'une seule en playoff. Hein. Donc, ok, ça peut faire des points de bonus pour le début des playoffs, mais il n'y en a qu'une seule en playoff qui est certes très bien placée puisque elle donne accès au dernier tour des playoffs. Mais il y en a.
Et oui, et puis s'il gagne les 5 premières, admettons, il a déjà un pied et 2 orteils en finale, quoi.
Ouais, enfin honnêtement, s'il gagne les 5 premières,
On peut fermer boutique, je pense, hein.
Bah là, je pense que ouais, on peut aller à Lourdes sur les genoux, hein.
Non, mais voilà, après, il y en a d'autres qui sont capables de gagner, hein. Je pense à un Truex, voilà, c'est le premier nom qui me vient en tête, hein. Kyle Busch, pareil.
Bah, William Byron n'a pas été mauvais,
C'est vrai.
Alex Bowman non plus, bon, donc de ses coéquipiers.
Alex Bowman, si, hein. Il fait son pire résultat sur l'Euroval.
Ouais, après il était dans le top 5 une bonne partie de la fin de course, hein.
8e. en trois courses, c'est son pire résultat à Charlotte.
Voilà,
ça va,
un petit,
il y a
hein.
pire.
Et puis Paolo Logano a fait également une très bonne course, il finit deuxième, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il performe aussi bien, tu vois.
Et puis un autre aussi qui a performé, qui a été excellent, c'est Ty Dillon.
Il va gagner un segment.
Et c'est pas payé parce qu'il fait 23e avec des soucis en fin de course. Mais...
Ah, le début de course était phénoménal.
C'est le premier à oser passer en slick.
Ah, mais
il démontait tout le monde sur une piste qui n'était pas sèche.
Et en plus, arrêtez-moi si je me trompe, mais déjà il partait de l'avant du peloton suite à son résultat de Talladega.
Il partait 17e.
Il partait que 17e, tu vois. Voilà, c'est pas grave. J'ai dit de la merde. Oui.
Non, parce qu'en fait, si tu veux, les pilotes de playoff, les 12 premiers étaient assurés de partir aux 12 premières places. Donc, ils pouvaient partir au mieux 13e.
En défense de Lilian, il est quand même très bien remonté avant de passer les pneus slick. Il était, je crois, quasiment dans le top 10. Il devait être 8, 9e à ce moment-là. Sur les premiers tours, on l'a vu qu'il a réussi un très bon green flag au premier tour. Et une fois qu'il a mis les pneus slick, bon, c'est un petit peu dur sur les 1 ou 2 premiers tours, mais ensuite, il mettait plus de 4 à 5 secondes dans la vue à tous ses adversaires. Et franchement, c'était je te passe à gauche, je te passe à droite, je te mets dans le vent dans les banking NASCAR, banking de l'Oval. Franchement, incroyable. C'est peut-être le highlight de la course.
Ouais. Et c'est dommage pour lui que ce soit si mal payé. Quand on sait qu'il est dans sa dernière année avec une écurie qui va mettre qui est vendue.
Et il a toujours, voilà, toujours pas de volant.
Après, c'est le petit-fils de Richard Childress, donc il y a sûrement des choses qui vont se mettre en place. Mais c'est vrai que je trouve que c'est mal payé et voilà, on peut en parler. Il nous a fait une belle course et.
Ty Dillon réalise quand même une belle saison. Je pense que c'est peut-être sa meilleure en carrière.
Effectivement.
Je regarde par rapport à l'année dernière.
J'ai regardé son classement à l'issue du troisième tour. Il est 26e du classement. C'est pas non plus exceptionnel.
Mais il fait pas aussi bien que l'année dernière pour l'instant. Parce qu'en 2019, sa position moyenne à l'arrivée était de 20,6. Et pour l'instant, en 2020, c'est 22,1.
Il est quand même derrière Ryan Newman qui a 4 courses de moins.
Mais en tout cas, quand il sort des bons résultats, on les voit.
3 courses de moins, pardon, Newman. Et il est 9 points devant Matt Kenseth qui a 4 courses de moins.
C'est pas vendeur. Hein.
Ah, ça fait pas rêver. Derrière lui, de ceux qui ont fait toute la saison, il y a Nemechek, Pris, La Joie et Ouf.
Ouais.
C'est pas fameux, c'est vrai.
Non, c'est pas fameux, c'est clair.
On peut rajouter Daniel Suarez qui s'est pas qualifié pour les Daytona 500 et Brennan Poole aussi qui a manqué une course non qualifiée. Peut-être bien les Daytona 500 aussi de mémoire.
D'ailleurs, on parle volant pour l'année prochaine et tu cites un certain Daniel Suarez. Je trouve que c'est une des bonnes nouvelles de la semaine puisqu'il a trouvé un volant dans une équipe qui se crée.
Oui.
C'est là, donne-moi le nom, je sais qu'elle est fondée par Justin Marks, ancien
pilote. C'est l'écurie de Justin Marks.
En partenariat avec la RCR.
Partenariat avec la RCR, donc c'est une très bonne chose. Je ne sais pas, mais c'est. Oui, voilà, en gros, on reprend la German Racing qui change de nom. Faut pas se.
Ça sera
se mentir. C'est ça, c'est la Trackhouse Racing.
Trackhouse Racing. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Daniel Suarez qui retrouve un volant potable. Parce que, désolé, son volant actuel dans la 96 n'est pas fameux.
Après, des volants potables, il en a déjà eu deux. Hein. Et plus que potable.
Il est vrai.
Ça va être sa quatrième équipe en quatre saisons. Je dis ça, je dis rien.
Après, ouais, transferts, il n'y a plus, excuse-moi, hein, je te coupe, mais ouais, les transferts, bon, il n'y a plus beaucoup d'inconnus qui subsistent. Il hein. y en a ouais. deux, je dirais.
Ouais, c'est ça. Di Benedetto reste chez Woods pour une saison complète. Qui va dans la 14? Qui va dans la 88? Puisque Bowman est transféré de la 88 à la 48.
Déjà, est-ce que le numéro 48 va subsister?
Oui,
Tout dépend de
possiblement.
ce qu'il pilote,
Certains
qui.
parlent du retour de la 5, de la 25.
Ah bah, c'est sûr que tu fais une équipe Hendrick avec la 9, la 24, la 25 et la 5. C'est presque royal, quoi. C'est tous les
Après.
numéros emblématiques de l'écurie. Le 48 est aussi emblématique, mais.
Après, certains parlent, si, je dis bien si, Kyle Larson arrive chez Hendrick, de son numéro qu'il utilise en sprint car. Alors, je ne sais plus si c'est 47 ou 57.
57.
Eh ben, les rumeurs courent que.
Ah, c'est vraiment votre marronnier, Kyle Larson à la Hendrick, hein.
Bah, il y a quand même tout qui est fait
Bah, tu le
pour
vois
qu'il
où
revienne.
d'autre?
Bah, je vois peut-être même, possiblement, pas du tout de retour en Cup l'année prochaine. C'est aussi une possibilité réelle,
T'as
hein.
vu ce qu'il a publié sur son site?
Non,
Ouais,
c'est.
sa lettre d'excuse, je l'ai pas lu, j'en ai entendu parler, mais
Oui, c'est un coup marketing et publicitaire, on est d'accord, il se rachète une bonne
ouais,
conscience.
puis c'est
Mais
très
ça ne veut pas
américain,
dire non
c'est tout.
plus. Au final, la saison, elle n'est pas moins bonne parce que Kyle Larson ne court pas en Cup. Je suis désolé, mais j'adore Kyle Larson en tant que pilote. Mais
Non, mais c'est
il m'a
parce que.
vraiment manqué, il m'a pas manqué en 2020, en tout cas, en termes de compétitivité.
Mais
Non,
n'empêche
je suis
que.
d'accord.
40 victoires en 80 courses en sprint car, c'est quand même un ratio exceptionnel.
Ouais, mais justement, la compétitivité et l'adversité en sprint car n'est pas aussi élevée qu'en NASCAR Cup, à mon sens.
Tu tombes que contre des spécialistes qui font que ça. Je veux dire, tu as quand même des mecs qui sont 10 fois champions, au moins, je pense à Denis Schatz. Enfin voilà quoi, c'est des mecs qui ont tout le temps l'habitude. Brad Sweet, ça fait aussi des années qu'il roule. Non, non, il y a de la compétition. Alors certes, c'est toujours les mêmes devant,
Oui,
mais
ça se
c'est quand
résume à
même
3, à 4, 5, non, pas plus, hein.
un paquet de furieux devant. Et enfin, tu te souviens de la course Lyon où on en avait parlé quoi, il y a 3 semaines, où dans un moment il est arrêté dans la ligne droite arrière parce qu'il rate son dépassement quoi.
Ouais.
Donc non, non, c'est vraiment des compétitions de fous furieux, les sprint cars. Alors, ok, ils sont peut-être que 5, 6 à pouvoir jouer la victoire de manière récurrente, mais il y a tellement de. Pour moi, il y a plus d'incertitudes sur une course de sprint car que sur une course de cup. L'erreur est plus facilement impardonnable en sprint car qu'en cup. Voilà. C'est mon ressenti à regarder les courses toutes les semaines. Sur YouTube quoi. Donc après voilà, peut-être que vous serez pas d'accord, mais c'est mon avis et c'est histoire de parler un tout petit peu de sprint car et avant de revenir sur la Cup, messieurs. Alors la Cup, on a dit que Chase Elliott avait gagné. Quatrième course de rang gagnée sur circuit routier. Il est clairement intouchable. On l'avait plus ou moins évoqué déjà la semaine dernière, hein, qui pouvait le battre, bah, à part ses mécaniciens cette année, personne. Mais.
On a souligné également que c'était la première course de l'histoire de la Cup à se dérouler sous la pluie, tout du moins le début de course.
Alors le début de course, oui, mais non. Une course de cup sous la pluie, c'est déjà arrivé. Tu n'étais pas né.
Oui, c'est vrai, dans les 70.
Lilian non plus, moi non plus, faut remonter dans les années 50.
Ah.
Je me demande si c'était pas 55 ou 57. Donc tu vois, ça fait quand même
Ouais, mon
très
père
très longtemps.
avait 6 ans, donc ouais.
Tout du
Ça
moins dans l'ère moderne, on va dire.
C'est ça, dans l'ère moderne, c'est une grande première.
Après, on en a attendu. Tout le monde s'attendait à ce qu'on a eu la veille en Xfinity. En
Mais
fait, bon, voilà,
d'ailleurs.
à part un départ sur piste humide, la piste a quand même relativement vite séché.
Tu vois, tu parles de piste humide. Je vais suivre comment dire, l'analyse de Jeff Gluck, donc que je pense les plus connaissent sur les réseaux sociaux, qui pense que la NASCAR est beaucoup plus attrayante et tout du moins juste dans le sens égalitaire entre tous les pilotes, avec une piste humide, si ce n'est relativement mouillée, plutôt que sous 5 cm d'eau et sous un déluge incessant pendant 3 heures. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Ça devait être mon j'aime
D'ailleurs,
pas. Ça devait être mon j'aime pas au départ, mais puisqu'on en parle, je balance ici.
D'ailleurs, en parlant de la Xfinity, on va refaire une autre parenthèse, c'est pas grave, de toute façon, on a
J'ai
encore un peu
ouvert,
de
désolé, j'ai ouvert la parenthèse, mais bon.
temps. Fallait la courir, fallait pas la courir le samedi, fallait mettre un rouge plus long,
Oh, c'était
votre
too
avis?
much. C'était too much, franchement. C'était sympathique à voir de notre côté, au chaud, devant notre télé, mais c'était inconduisible. Littéralement, c'était, peut pas dire dangereux, parce qu'au final, les vitesses n'étaient pas super rapides, mais il y avait aucun moyen de juger d'une manière impartiale. Ça avait beaucoup trop d'inconnus, de place entre guillemets au hasard ou alors à la chance. Et franchement, c'était beaucoup trop volatile. À mon sens, c'est pas plus une course humide comme le premier segment en Cup, ça carrément, mais plus un déluge comme ce qu'on a connu en Xfinity qui s'est fini en plus dans la nuit. Les mecs ne voyaient rien. Et depuis quand on court sous la pluie et dans la nuit
Ah, ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'est clair. Ils ont dit on court, ben on court.
Même au Mans et au Nürburgring, ils font pas ça. Enfin, tout du moins, ils sont beaucoup
Ouais, mais.
secs
Ouais,
par rapport à
mais.
ce genre de course. Là, en NASCAR, c'était allez, démerdez-vous, survivez jusqu'au dernier tour.
Ouais, enfin,
Mais
tu parles du Mans, ouais, enfin, ça, c'est une blague, hein. Henri Pescarolo, si tu nous écoutes, je sais que tu partages mes propos. Notamment quand j'étais dans les tribunes du Mans, c'était quand c'était en 2016, je crois, quand Toyota tombe en panne dans le dernier tour.
parler de remuer le couteau dans la plaie, merde.
Non, mais c'était quand même une grosse blague, quoi, le départ de la course. Oui, il pleut, dès qu'il pleut trois gouttes au Mans maintenant, on sort la voiture de sécurité, faut arrêter les conneries.
Non, après, non, je parlais du fait qu'il y ait la pluie, une visibilité quasi nulle, et le fait que ce soit dans la nuit, parce que désolé, les lumières n'aidaient pas du tout les pilotes, ça les desservait plutôt. C'était, mais même les pilotes disaient, je vois pas où je roule. Donc,
Ils l'ont fait à la dégâts, fut un temps, ils pouvaient le faire à Charlotte. Hein.
sous la pluie, à t'as la dégâts? C'est pas la même
Non,
chose.
non, de nuit, de nuit, de nuit.
De nuit, oui.
Ils l'ont fait à Martinsville, ils l'ont fait à la dégâts, ils pouvaient le faire à Charlotte Roval, écoute.
À Martinsville, il fallait faire gagner Gordon pour qu'il aille en finale pour sa dernière.
Aussi.
C'est juste que je trouvais les conditions un peu trop extrêmes pour une course égalitaire et tout du moins pas
Oui.
juste.
On est d'accord, mais en fait, Lilian a encore une fois divergé, il a encore ouvert une autre parenthèse dans la parenthèse. Du coup, Lilian, fallait y aller ou fallait pas y aller?
Mais si, non, non, faut arrêter. C'est des pilotes ou c'est pas des pilotes? Non, il faut y aller. Non, on cherche pas.
Y a
Non,
une
faut.
limite quand même.
Alors, ouais, je vais me mettre à mi-chemin entre vous deux. On va dire que je vais avoir le cul entre deux chaises.
C'est bien ça.
Maintenant, c'est des playoffs, c'est plus des chaises.
Elle est jolie.
Du coup, oui, je suis d'accord, fallait y aller, mais il y avait peut-être quand même un problème de pneumatique. C'était peut-être pas des pneumatiques pluie chez Goodyear, c'était peut-être plus des intermédiaires, comme ils appellent ça en F1, et pas des pluies. Il
Ah,
y a
mais là,
peut-être
il fallait des rames et un bateau le samedi, hein.
C'est vrai qu'à un moment, ils ont quand même envoyé les sécheuses enfin, les souffleuses pour enlever l'eau. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'eau. Mais je pense que les pneumatiques Goodyear, les pneumatiques qu'ils appellent pluie, sont prévues pour la pluie, mais quand c'est une bruine, en fait, hein,
Ça évacuait pas assez d'eau,
c'est
c'est ce que
clair.
tu veux dire.
C'est ça, je pense que ça évacuait pas suffisamment d'eau pour
Ah bah
que
les nervures étaient quand même
l'eau puisse
relativement
bruiner.
profondes, hein.
Ben oui, mais n'empêche que ça évacuait peut-être pas suffisamment. Donc, il y
Ou
a
alors
peut-être
c'était pas. Ils ont utilisé les mêmes pneus qu'en cup, je suppose.
Oui.
Mais je pense que c'est aussi dû au fait que l'asphalte soit relativement neuve, notamment dans l'infield, et du coup l'évacuation d'eau se faisait beaucoup moins. Et puis je pense que quand ils ont asphalté la piste, ils n'ont pas pensé à ce qu'il y ait un déluge et que ça crée des trous d'eau un petit peu partout sur la piste. Ça, les Américains, je pense qu'ils n'y ont pas forcément pensé. Donc l'accumulation d'eau et le fait que ce soit complètement un déluge sur une asphalte qui a 2 ans, allez, 3 ans pour être gentil, ça a aussi joué. Et du coup, l'évacuation n'a pas été optimale.
Après, une idée qui me vient en tête, tu vois, est-ce que pendant une course de cup, Ils auraient peut-être interrompu la course, tu vois. La Xfinity, ça a moins d'incidence.
C'est vrai.
C'était une course éliminatoire aussi. Hein. Donc.
Ouais, mais bon, enfin, ça reste la Xfinity, tu vois. Et puis, de
Ouais,
toute façon, on sait que ce sera Briscoe ou Cindric champion. Bon, voilà.
Après, pour rebondir sur les propos d'Aloïs, ça se saurait si à Charlotte, il savait faire un resurpassage correct.
On pense à quelle année en particulier, Geoffroy, dis-moi.
2005, non?
C'était quelle année le record de drapeau jaune, ouais? C'est
Ouais,
pas
c'était au
2005?
milieu des années 2000.
Ouais, il me semble que c'est 2005 où ils en font 22, je crois, sur les 600 miles. Hein.
Mais en tout cas, chapeau au pilote d'Xfinity pour avoir navigué littéralement à travers les embûches pour finir cette course parce que franchement, on s'est quand même bien éclaté devant.
Et bravo à AJ Manninger.
Oui.
Bon, quand même,
Au passage.
soulignons le vainqueur.
Bah oui, quand même.
Et AJ Manninger avec un petit volant en cup l'année prochaine, il va en playoff, hein.
C'est vrai que vu le nombre de courses routières, il y a peut-ut à quoi jouer pour AJ, c'est clair.
Mais ils en parlaient d'ailleurs pendant la course en Xfinity, c'est vrai.
Almendinger à la Hendrick. Allez hop.
Oh putain, alors ça, personne l'aura vu là.
Alors, messieurs, on va essayer peut-être de reprendre un tout petit peu le fil de l'émission parce que là, on a divergé, mais
Bon, on est resté sur le Roval à Charlotte au final,
on
hein.
avait le temps,
Ah,
on
ouais.
avait le temps. On n'a
Mais
pas parlé d'IndyCar exprès pour ça.
on pourrait faire une émission complète rien que sur nos digressions. Alors, Chase Elliott a gagné devant Joey Logan, on en a parlé. Eric Jones, pareil, monsieur, je recherche un volant troisième. Donc,
Belle course également de sa part.
c'est vrai.
Kurt Busch, quatrième, dis donc. Kurt Busch, je suis en train de vérifier, messieurs. Huitième du classement général à l'issue du deuxième tour des playoffs. Donc, il serait rentré au point. Même sans. Enfin, si, peut-être que la victoire a aidé, mais il serait rentré au point avec ses bons résultats.
Et au final, ces playoffs, c'est pas dégueulasse à Kurt Busch. On l'annonçait éliminé très tôt. Mais au final, sur le premier tour, il fait 8, 13, 15. Victoire à Vegas. Bon, Talladega, il finit sur le toit. Mais au final, si tu enlèves juste Talladega, Las Vegas, c'est victoire. Et Charlotte au Roval, c'est 4. Donc,
Ouais, non,
c'est solide,
c'est
hein.
correct. C'est correct. Ryan Blaney, cinquième. Un peu trop tard le réveil. Hein, et...
Tu soulignais tout à l'heure une très belle performance pour Ty Dillon. Mais celle de Blaney est tout aussi belle, puisqu'il était aux avant-postes en début de course. Il a connu des problèmes comme Chase Elliott et il est également remonté au milieu du peloton de belle manière.
Oui, mais pourquoi j'ai mis Ty Dillon en avant? Parce que Ryan Blaney, c'est Penske et que c'est un ancien vainqueur sur le Roval. Ty Dillon nous avait pas forcément habitués à pareille performance.
C'est vrai.
Enfin, si, il s'était fait. C'est Ty Dillon qui s'était fait poutrer par Chase Elliott en truck à Mosport pour la première victoire.
Exact. Ah non,
Oui, c'est
j'ai
vrai, non, c'est
revu
vrai.
la vidéo l'autre jour. C'était John Hunter Nemechek et.
Ah non, c'est Ty Dillon. C'est un
Ah,
des personnes qui se
il y
fait
a
sortir.
eu une année avec Chase Elliott, ouais.
Il avait le 94 Irons. Donc,
Mais
ouais.
il y a eu deux années en suivante où, pareil, il y a eu un pilote sorti comme un malpropre par le deuxième dans le dernier tour, dernier virage.
Ah, effectivement, c'était en 2013. Je viens de
Mais...
trouver la vidéo. C'est Chase Elliott qui sort Ty Dillon dans le dernier virage, comme un malpropre, je confirme. Il y avait aussi eu, il y avait, je l'ai vu dans la semaine, j'ai vu la vidéo.
Mais il n'y a pas eu aussi une avec Max Papis où il se fait tarter par la nana du pilote en question?
Eh ben si, il y a Max Papis aussi l'année d'après, je crois.
Ah non, c'est en 2018. Entre Cole Custer et John Hunter Nemechek qui finissent tous les deux dans l'herbe sur la ligne d'arrivée.
Mais c'est pas Max Papis avec Matt Crafton? C'est pas la femme de Matt Crafton qui va y en coller une? Enfin bref. Mais si, si, ça s'était réglé
On
dans la voiture.
tergiverse encore une fois, mais oui, moi j'ai cette image de Papis, ouais.
C'est ça. À la sixième place, messieurs, William Byron. Belle course aussi
Belle course de Byron.
du jeune pilote Hendrick, qui termine devant Martin Truex Jr. Alex Bowman, on en a parlé, qui fait son pire résultat sur le Roval, huitième. Il y en a beaucoup qui s'ignoraient. Neuvième, Cole Custer, premier rookie de la course. Et dixième, Clint Bowyer, qui y a un temps cru, mais non.
11e Kevin Harvick qui comme prévu Et passer au travers des embûches pour signer un résultat correct et passer au tour suivant.
Ouais, mais qui se fait bien désosser sur ce tour-là par Denis Hamlin en termes de points au classement général. Puisqu'il est deuxième à 16 points, alors qu'il avait commencé avec 18 points d'avance. Donc il prend 34 points, il prend 10 points par course. Et ça s'est vu. Autant sur le premier tour, on avait critiqué Denny Hamlin en disant qu'il était en roue libre, autant sur le deuxième tour, Kevin Harvick, ça a été zéro risque.
Ah bah, de toute façon, comment dire, Aloïs l'avait dit, hein. L'avait pressenti en tout cas.
C'était certain qu'il allait passer tranquille ce tour pour passer la troisième vitesse au dernier tour avant le Championship 4. Et là, tu parles de points, mais au final, ce qui compte, c'est qu'au début du troisième tour, donc l'avant-dernier, techniquement, Kevin Harvick est premier du championnat avec 13 points d'avance sur Denny Hamlin. 4067 par rapport à 4054. Et c'est ça qui compte finalement.
Et surtout 45 points d'avance sur le cinquième.
Joey Logano.
Et c'est là que les victoires, elles vont commencer à parler, c'est dans ce tour-là.
Ah bah dans ce tour-là, c'est clair que ça va aider quand tu vois Kevin Harvick 4067, Denny Hamlin 4054, Brad Keselowski 4035, quatrième Chase Elliott 4027, Logano 4022, Truex 4017. Seulement, j'ai envie de
Ils sont
dire.
assez proches, ouais.
Ouais, Bowman 4009 et Kurt Busch 4006.
Au final,
Ah
tu as
ouais,
que
tu vois,
20 points.
ouais.
Tu as 20 points qui séparent Chase Elliott 4e et Kurt Busch 8e. Donc, deux segments.
Ouais, t'as 21 points, donc... Enfin, puis t'en as même 30 avec Keselowski 3e, hein.
T'as
29.
que Hamlin et Harvick qui ont, comment dire, un demi-joker.
Un bon gros demi-joker quand même, hein, parce que quand t'as Kansas, Texas et Martin qui sont
Martinsville.
en tour... Tu t'appelles Harvick et Hamlin.
C'est bien.
Ouais. T'es bien, quoi. À moins que les mecs se remettent à faire les cons dans les stands. Tu vois, un excès de vitesse, deux, trois écrous mal serrés, des pneus gauches montés à droite.
Là, tu parles que de la guide, là. Hein. C'est pas Harvick, c'est pas la Stewartas.
Harvick, il est capable de nous faire un excès de vitesse, hein. Ils sont peut-être capables aussi de nous mettre de l'eau à la place du carburant. Enfin, je sais pas, ils sont peut-être capables de trouver quelque chose, hein.
D'ailleurs, en parlant d'excès de vitesse, William Byron termine sixième en ayant commis un excès de vitesse dans le dernier segment.
Oui, comme quoi, ça n'empêche pas de remonter. Alors, messieurs, sur cette course de Charlotte, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur certains pilotes? On a parlé de Kyle Busch.
On a parlé de Denny Hamlin quand même, qui a passé pas mal de temps à jardiner dans la boue.
Un petit peu, ouais.
Hein. Non, mais c'est vrai que combien de fois on l'a vu en tête à queue, quoi. C'était pas mal, quoi.
On l'a vu au moins deux fois, ouais.
Oh, deux, trois fois, ouais, c'est... Et puis pour ressortir avec une voiture propulsion dans la boue, c'est coton.
Bah bon courage. Il y a que Ty Dillon qui a été suffisamment intelligent. Il a fait marche arrière sur la pente qui descendait.
En même temps, une pente descend toujours.
Bon, elle peut monter également. Tout dépend dans quel sens tu te places.
Non, c'est une côte quand ça monte. Matt Kenseth, 34e. Bon, à l'image de sa saison, en fait.
Malheureusement.
Et puis à l'image de sa carrière sur routier, c'est pas fameux.
Mais c'est un pilote old school, ça, avec Kenseth, ouais, c'était. Ouais. Lui, il était de l'époque, il y en a deux par an, c'est suffisant, quoi.
Pour ça, il prend sa retraite. Il a vu ça, l'annonce du calendrier, il a dû faire une syncope, le pauvre. Nemechek, on en parlait un peu, 36e. Il met fin à trois courses consécutives dans le top 20. Bon, ça ne changera pas sa place finale au classement, ça ne changera rien, mais voilà. Kyle Busch, messieurs, Kyle Busch, on en a parlé, qui reste toujours sans victoire cette année. Ça devient malheureusement comment? Un running gag.
Ah, son avenir est quand même déjà écrit, hein, si on suit cette saison, difficile de voir un changement de tendance maintenant qu'il n'est plus qualifié pour les playoffs, enfin qu'il n'est plus en lice pour le titre.
Donc Ah, mais tu vois, étonnamment, j'adhère totalement à l'idée d'Aloïs. Alors, je ne sais plus s'il l'avait soumise il y a une semaine ou deux. C'est que Kyle Busch aille nous gagner la finale à, j'allais dire, à Homestead, à Phoenix.
Ah,
Ah, ça serait tellement énorme.
j'avais surtout dit ça d'un point de vue sarcastique et un peu troll,
Non, mais
mais
non, mais
c'est vrai que ce
t'imagines,
serait marrant.
ça serait génial parce que depuis qu'on a comment, le vainqueur du championnat qui se décide pour la finale, c'est toujours le vainqueur a été champion. Ça serait énorme que pour la première, ce soit Kyle qui aille gagner. Il n'est pas qualifié et il n'a pas gagné de la saison. Ça serait génial, quoi.
C'est ça. Et donc, c'est le premier champion en titre à être éliminé au deuxième tour des playoffs. Et surtout, avec cette élimination de Kyle Busch, messieurs, eh ben, c'est l'assurance d'avoir un pilote qui n'était pas dans le Championship 4 l'année dernière, dans le Championship 4 cette année.
Ah, qu'il y en a un nouveau qualifié, tu veux dire?
Il y en ait un nouveau par rapport à l'année dernière, puisque l'année
Bah,
dernière, c'était Kyle Busch, Martin Truex Jr., Kevin Harvick et Denny Hamlin. Les trois autres sont encore en lice. Plus
oui,
Kyle Busch.
Elliott, Kurt et Bowman, ouais.
Effectivement.
Et si je te dis qu'aucun des quatre pilotes qualifiés au Championship 4 de l'année dernière est qualifié cette année?
Ouais, bah là, je te crois pas du tout.
Ouais, alors là, ouais.
Parce
Tu
que.
conseilles d'aller parier à Vegas?
Oh, bah là, c'est même plus à Vegas. À mon avis, tu peux essayer d'aller à Lourdes sur les genoux. Ou à vélo, mais emmène des chambres à air de secours.
T'inquiète, t'inquiète, j'ai prévu.
Non, parce que alors là, pas Harvick, pas. Ouais, pas.
Pas
Comment?
Harvick, pas Hamlin, pas Truex, excuse-moi, celui qui dit ça maintenant, si les paris existent, le mec est milliardaire dans 3 semaines.
Bah, je
Et dans les
l'espère
deux
pour
Penske, il
personne,
y en a
hein.
un des deux qui a jamais été en finale?
Non, en finale, la semaine dernière, l'année dernière, pardon.
Ah.
Il écoute rien. Il coûte
Faut tout
rien.
répéter, hein.
Faut tout répéter. Parce que Joey Logano, lui, il a toujours été en finale en année paire.
Ah, bah ça sent bon pour cette année alors, si on suit ton raisonnement.
Ça pourrait être le quatrième. Chase Elliott, Alex Bowman et Kurt Busch n'ont jamais été en finale. Donc voilà. Brad Keselowski, la dernière fois qu'il était allé en finale, c'était en 2017.
Ça date déjà.
Et c'était sa seule fois.
L'année de son titre.
Non, l'année de son titre, c'est 2013.
Effectivement.
C'est l'année du retrait de Dodge.
Donc, non, c'est même 2012, pardon. 2013, c'est Johnson. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour les petites stats à la con qu'il va falloir surveiller un petit peu pour ce dernier tour des playoffs, messieurs. Un dernier tour qui va commencer dès ce week-end du côté du Kansas sur un exceptionnel ovale d'un mile et demi, Lilian.
Le meilleur, ah ouais, non, mais de toute façon, on l'a dit, c'est le tour le moins attrayant.
Ouais.
Et surtout avec du PJ One.
Kansas PJ One?
Kansas, j'ai pas le souvenir, ouais.
Bah, Texas, t'en auras, c'est certain déjà.
Texas, oui, il y en a eu par le passé.
Martinsville, ils sont assez cons pour en mettre.
Ouais, mais non, mais s'ils font ça à Martinsville, mais je pense qu'il va y avoir des morts, quoi.
Bah, attends, on disait ça par rapport au resurfaçage d'Atlanta. Tu vois ce qu'ils nous préparent dans les tiroirs, hein?
Ta gueule. Ça
Ah, moi, je dis ça, je dis rien.
Non, j'ai pas d'infos sur le PJ One au Kansas. Oui, Texas, il y en aura. Phoenix, il y en aura. Si, il y aura 10 000 fans au Kansas. Je sais, l'info qui sert à rien. Tout le monde s'en branle. Donc, non, on verra bien pour le Kansas s'il y a du PJ One. Honnêtement, je ne me souviens plus. Bah attends, je peux regarder sur mai 2020. Si, il y avait l'info, messieurs. C'est du live, je vérifie. Mais non, il n'y avait pas de PJ One. Donc, avec un peu de chance, ça va le faire.
Mais en tout cas, est-ce que vous voyez une surprise sur cette première course du troisième tour? Au dernier tour, on a eu Kurt Busch. Est-ce qu'on aura un autre pilote qui ne s'appelle pas, par exemple, Kevin Harvick ou Denny Hamlin?
Je pense que Kevin Harvick et Denny Hamlin l'avons passé en mode championnat. Et je pense que les deux sont capables de s'expliquer sur la fin de course. Et que, en gros, il y en a un des deux qui va gagner. Pour moi, il y en a un des deux qui gagne Kansas, l'autre qui gagne Texas. Et puis, on verra bien qui gagne Martinsville.
Ah, tu vois, je suis pas, comment dire, je crois à un petit coup de Trafalgar d'un Joey Logano ou d'un Brad Keselowski pour faire monter un peu la pression d'Harvick Hamlin, les faire transpirer sur les deux courses qui restent.
Ils en sont capables, c'est clair.
On va falloir les faire transpirer, vu l'avance qu'ils ont, à moins de se faire sortir. Ils vont pas transpirer beaucoup.
Ah, tu sais jamais, hein, tu sais jamais. Denny Hamlin qui foire un arrêt au stand dans le dernier segment, c'est pas impossible non plus, hein.
Denny Hamlin qui foire des courses en fin de playoff alors qu'il joue le titre, c'est pas impossible non plus, c'est ça que tu allais me dire.
Également.
C'est déjà arrivé.
C'est ça. Donc oui, de toute façon, clairement, il peut tout se passer maintenant. La domination d'Harvick Hamlin sur Oval d'un mile et demi cette année, elle est telle que honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'aimerais bien, hein, qu'il se passe quelque chose, mais j'ai du mal à y croire que ni l'un ni l'autre ne parviennent à dominer au Kansas et à Texas, quoi.
Ah, pas dominé,
À
oui.
moins d'avoir un overtime avec des stratégies, mais sinon.
Ouais, oui.
Bon, on a bien vu
Ça.
Colchester plus tôt dans la saison, hein, sur un ovale qui ressemble à celui de Kansas.
On verra. On verra bien. Maintenant, est-ce que Kurt Busch peut rééditer ce qu'il a fait à Vegas? Non, j'y crois pas.
Ouais, pareil, je suis moins convaincu
Après, il y
de.
avait l'effet home track à jouer, je pense.
Et du coup, messieurs, vous voyez qui maintenant pour le Championship 4? Est-ce que vous changez par rapport à ce que vous aviez dit en début de playoff?
Non.
Non plus. Bah, moi non plus.
Ouais, ça tombe très bien.
Ouais. Non, mais c'est des fois qu'on se dise, par exemple, un Truex qui a 10 points de retard sur un Chase Elliott, ça nous fasse changer d'avis ou.
Bah moi j'avais déjà mis Chase Elliott dans
Toi,
mon
t'avais déjà mis Chase
support.
Elliott,
J'y
mais
crois
moi non.
toujours.
C'est vrai que nos quatre pour la finale sont encore en course pour tous les trois.
C'est ça. Pour l'instant, on est à 6 sur, on en a trouvé 6 sur 8 là pour le.
On n'a pas pris beaucoup de risques en pronostiquant Keselowski, Hamlin et Harvick, pour être
C'est
honnête.
ça. En gros, c'est Kurt Busch et Bowman qu'on n'avait pas
Ouais. Et on s'est tous plantés avec Blaney.
Oui, ouais, voilà, avec des blés.
Geoffroy et moi, c'était avec Almirola. Et Aloïs, c'était avec Kyle.
Ouais.
Ah, j'avais amené dans ce tour-là, je crois,
Avec
Kyle,
Mickaël
moi.
Busch dans les 8, ouais.
Ouais. Donc, bon, bah, il n'y sera pas, il y a Kurt, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, messieurs. Le Kansas, ce week-end, trois courses au Kansas, la Truck le samedi après-midi, la Xfinity le samedi soir, et la Cup le dimanche après-midi. Une course en nocturne, une course à 20h30, je crois, en heure française. De mémoire, je suis en train de vérifier tout ça, messieurs. Bon,
Ce que tu as publié sur le site, ouais.
on retrouve des horaires à peu près, on va dire, normaux pour les playoffs. En tout cas, s'il y a de la pluie, on ne courra pas, ça c'est une certitude.
Oui, retour au
Il n'y a
classeur.
pas comment dire, un routier au centre du Kansas?
Si, si, il y a un routier sur le circuit du Kansas, mais
Oh
pas
bah, tu
prévu.
peux profiter fort alors.
Oui, mais pas prévu. Attends, tu m'étonnes. Tu mettrais Chase Elliott directement en finale avec ces conneries.
Il faut bien qu'il s'entraîne pour l'année prochaine et il faut bien favoriser Chase Elliott d'une façon ou d'une autre. Hein. T'as les gars, c'est bien gentil, mais maintenant il faut se qualifier pour la finale.
Arrête.
Hein.
On va vraiment croire qu'il y a un complot pro Chase Elliott.
Bah, à l'époque, c'était Junior. Maintenant, c'est Elliott, hein, le chouchou du public.
C'est ça. Mais c'est vrai que bon, c'est comme ça. Les horaires, oui, c'est bien ce que je disais, 20h10, les pilotes aux voitures, 20h15, la présentation des pilotes, 20h30, la course. J'ai pas encore l'heure du drapeau vert, messieurs, mais ce sera sûrement du 47-48. Donc
À
voilà.
peu de choses près.
Faudra faire 267 tours pour 400,5 miles. Les deux premiers segments feront 80 tours chacun. Et le dernier segment fera 107 tours avec un drapeau jaune de compétition qui devrait être autour du entre le 20e et le 40e tour. Comme d'hab. J'essaye de retrouver l'info sur la course du Kansas du début de saison, si on avait eu l'info.
Pour
Mais
le drapeau de compétition?
ouais.
Attends, je vais peut-être pouvoir te le retrouver.
En fait, il faudrait que je reprenne les résultats, tout simplement. Mais
Attends, je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus.
ouais, moi aussi. Moi aussi.
La compétition était au tour 27, à la fin du 26e tour.
Ouais, donc en fait, il était annoncé au tour 25. Mais le temps que tout le monde fasse 25 tours, t'arrives au 27. Mais ok. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les infos, messieurs. Ah oui, c'est vrai, le Kansas, c'était Ricky Stenhouse Jr. qui avait terminé dernier, je vois ça.
Quelle
C'était, je crois, le.
surprise!
Non, non, mais tu rigoles, mais c'était le début de. Comment? C'était le début de la série de quatre courses à la dernière place pour la JTG de Hearst Racing. Avec Stenhouse et Ryan Preece qu'on avait enchaîné trois de suite après.
Ah,
Voilà.
c'était le bon temps.
Le bon temps, je sais pas.
Ah, pour eux, non, c'est sûr.
Mais pour toi, oui.
Oh, bah, on se réjouit comme on peut.
C'est ça, on se réjouit comme
Il a
on peut.
bien raison.
Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose?
J'aime pas,
On
peut-être, pour
était
conclure en
complet
beauté.
sur Charlotte, hein.
Ah bah, on a fini sur Charlotte et allez, histoire de faire plaisir à Loïs, le j'aime et le j'aime pas en toute fin d'émission. Aloïs, tiens, vu que tu as parlé, je t'écoute en premier avec ton j'aime et ton j'aime pas. Enfin, ou tes deux j'aime, ou tes deux j'aime pas, ou rien. Enfin, ce que tu as, quoi, en stock.
Alors, je vais commencer par mon j'aime déjà.
Ouais.
Et c'est non pas la course sous la pluie en Xfinity, mais plutôt la rivalité naissante entre Noah Gragson et Riley Herbst, qui franchement commence à me passionner un petit peu, parce que outre, dehors l'un à la suite de l'autre, c'est les petites phrases que chacun se lance semaine après semaine qui franchement me font plaisir. Et là, au Roval, bah, Herbst fout carrément Noah Gragson dans le mur du temps 3. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Noah Gragson qui était je ne me venge pas, j'égalise. Et après la course, il a dit que je ne mets dehors que les pilotes qui jouent la gagne. Sous-entendant que Herbst ne joue pas la gagne en règle générale. Donc j'aime bien la petite rivalité qui commence à naître et vivement qu'elle continue les années prochaines.
Le j'aime pas du coup.
Eh bien, moi, j'aime pas. Je vais récidiver sur cette course-ci. C'est quand même. Ah non, 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 non! J'avais un deuxième j'aime, autant pour moi.
Allez, mets-toi le fion.
C'est le premier moteur noyé de l'histoire de la NASCAR. Mais noyé au sens littéral. Quand c'était Brandon Brown qui se met dans l'herbe dans l'infield et qui lève un rideau d'eau au-dessus de lui, qui, je pense, noie son moteur dans l'eau, ça m'a
Ouais.
fait plutôt marrer.
En même temps, noyer son moteur dans l'air, c'est compliqué. Tu l'auras cherché. Lilian.
Allez, moi j'aime pas. C'est avoir du matériel informatique qui a moins d'un an pour, enfin, que j'utilise pour mon boulot. Et puis en fait, j'ai du matériel informatique pas terrible, qui est déjà relativement lent, et c'est franchement chiant.
Ouais.
Et puis mon j'aime, bah, c'est d'avoir pu retrouver mes collègues pendant 2 jours en séminaire. C'était bien sympa. Même avec le Covid, on a quand même eu droit à un séminaire.
Ah. Bientôt télétravail.
C'est ça.
Ouais, on en rigole, mais c'est pas drôle. Je commence avec mon j'aime pas. Pareil, on va revenir une dernière fois sur la course d'Xfinity. Mais c'est pas la course d'Xfinity en elle-même, c'est un tout. C'est ce manque d'anticipation en fait de la NASCAR et de Charlotte, parce que ça faisait quand même depuis toute la semaine qu'on annonçait qu'il allait pleuvoir et que forcément la course serait très longue. Et on a senti que pour le coup ils étaient un peu amateurs avec les lumières. Et bizarrement le lendemain il y avait des lumières dans l'infield quoi, donc ils sont capables d'en trouver en 24 heures, mais pendant la semaine, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc, ça fait un peu amateur et je trouve ça très très moche. Et mon j'aime, messieurs, bah, c'est une stat à la con. C'est que la semaine prochaine, on va être obligé de parler d'IndyCar pour la finale et ce sera la finale la plus lointaine dans le temps d'une année depuis 2007.
que tu as dit qu'on soit obligé de parler d'IndyCar.
Je sais, voilà, je vais vous faire
Ça
un
fait un troisième j'aime.
petit peu réagir. Je vais vous faire un petit peu réagir avec ça, mais oui, donc bah, la semaine prochaine, on parlera de la finale qui aura lieu du côté de Saint-Pete. Et là, NASCAR, on reviendra sur l'épreuve du Kansas, messieurs, et on parlera un petit peu du Texas. Donc, ce sera très PG1, je pense, la semaine prochaine, mais c'est pas
Vive le
grave.
PG1, je n'aurai qu'un mot.
À mon avis, on met 10 centimes dans le jukebox à Loïc et il nous fera 1 heure d'émission, on sera tranquille, on pourra aller se faire un resto avec Lilian, tranquille. Enfin, si les restos sont encore ouverts la semaine prochaine.
Et bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans ce cas-là.
Exactement, rendez-vous bah, déjà ce week-end pour suivre ce qui va se passer, puis la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Lilian, merci Aloïs. Bonne semaine, bonne course. Bye
Vive le PG1, à la semaine prochaine.
bye. Bonne semaine à tous et à bientôt.